Une nouvelle fois, merci. Une nouvelle fois, bonjour à tous. Je suis vraiment heureux de vous voir. C'est vraiment chaque dimanche un bonheur pour moi, une vraie joie, je peux vous le dire, parce que c'est important, comme le disait Vincent, de pouvoir se réunir et partager. Alors c'est vrai qu'un message m'a été transmis et hier soir, j'ai apporté quelques rajouts compte tenu de la situation. Je vais commencer par poser une question. Sommes-nous des Gaulois ? Sommes-nous encore des Gaulois ? Pourquoi cette question ? Parce que les Gaulois, le peuple gaulois, était en fait un ensemble de différentes tribus qui avaient chacun un peu leur coutume. D'ailleurs, beaucoup de nos régions ont été déterminées par la suite par ces tribus. C'était des guerriers craints par leurs adversaires, des guerriers farouches qui n'avaient peur de rien. Dans les livres d'histoire, on dit, ça je pense que c'est une anecdote, qu'ils n'avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Enfin bon, ça c'est une parenthèse. Et pourtant, ces Gaulois, aussi courageux soient-ils, aussi téméraires soient-ils, eh bien, ils ont été écrasés par les armées, les légions romaines. Or pourquoi ? Pourquoi ils ont été écrasés par ces légions romaines ? Eh bien, tout simplement parce que je dirais que c'était un petit peu. Les guerriers gaulois étaient un petit peu comme des snipers. Ils agissaient individuellement. Voilà. C'était un peu une guérilla, je dirais, qu'ils pratiquaient, sans se coordonner les uns les autres, sans s'unir aux autres tribus. Par contre, les légions romaines, elles étaient organisées, structurées. Elles étaient unies, soudées, et ils pouvaient faire face à tous les adversaires. Alors, j'ai parlé des Gaulois, mais il y a beaucoup d'autres tribus qui ont été dominées par ces légions. Alors, sommes-nous des Gaulois ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, je dirais, nous nous sentons menacés. Là, on ferme les portes, on n'a pas peur, mais on est prudent. Et ça, c'est intelligent, je dirais. C'est vrai que nous nous sentons menacés parce que on sent que l'adversaire s'installe sous la forme d'un radicalisme issu d'une religion. Eh oui. Alors, le radicalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre des positions extrêmes et refuser les compromis. Je pense que c'était important de le dire. Alors, pourquoi cette intrusion a été possible dans notre pays ? Alors, ça, c'est une analyse personnelle qui m'est venue hier soir. Personnellement, je crois que la cause de cette en est l'éloignement progressif de Dieu. Notre pays s'est éloigné progressivement de Dieu. C'est la cause d'un relâchement dans les relations que l'on peut avoir avec Dieu. Si Dieu avait été plus présent dans nos principes de vie, sans nous-mêmes devenir tomber dans le radicalisme, l'adversaire, le malin, ne serait pas entré, à mon avis, si facilement, si sournoisement. Alors c'est vrai que j'entends souvent ce mot prononcé, et je pense que c'est un principe qui est mis en avant par beaucoup de personnes. Alors c'est un principe qui est noble, hein, bien sûr, qui a été mis en avant, c'est la tolérance. Alors, c'est bien de dire, mais il faut être tolérant, il faut tout accepter. Alors moi, je vais vous poser une question, mes frères, mes sœurs. Au nom de la tolérance, doit-on accepter l'intolérance? Ça peut être un sujet de philosophie, de dissertation, ça. Moi, je pense que, en fait, en ne mettant pas Dieu en avant, ça a fait que une grande partie des personnes qui nous entourent, la jeunesse notamment, est en recherche d'un soutien et ils l'ont trouvé dans des religions. Dans des religions qui prônent le radicalisme. Je ne suis pas là pour juger, mais je vais vous dire que lorsque les sentinelles s'assoupissent, s'endorment, la voie est libre pour l'adversaire. Nous, les chrétiens de tous les jours, pas les chrétiens du dimanche, mais de tous les jours, nous sommes ces sentinelles. Une sentinelle a pour mission d'avertir du danger. Et je me pose une question, avons-nous tenu notre rôle ? Nous qui avons Jésus-Christ comme sauveur, nous nous sommes divisés. Chaque branche du christianisme s'est elle-même ramifiée. On n'est pas souvent d'accord, on n'est pas toujours d'accord. C'est vrai qu'on a Jésus comme lien, mais ce n'est pas évident. Des fois, on ne se comprend pas même d'ailleurs. Sommes-nous encore des Gaulois ? Sommes-nous encore divisés ? Sommes-nous des petites peuplades qui luttons chacun de notre côté ? Je pense qu'il faut remédier à ça. Alors, je vais fermer la parenthèse là, sur ce que je viens de dire. Ça, c'était une analyse personnelle. Et je vais commencer le message. Et je vais vous dire, vous allez bien ? Alors, ce n'était pas une question, hein. C'est une affirmation. Vous allez bien. Vous allez bien. Alors, tout se passe bien. Vous êtes heureux d'être réunis. Moi, je le suis en tout cas. Alors, savez-vous pourquoi tout se passe bien ? Et là, c'est une question, mais je vais vous donner tout de suite la réponse. Parce que le Seigneur est au milieu de nous. Il est le centre, comme on l'a dit dans les chants. N'oublions pas que notre Dieu est le roi des rois, l'éternel, le Dieu créateur de l'univers. Celui qui est, celui qui a dit à Moïse, dis-leur que je suis. Alors, ce Dieu magnifique, on ne le reçoit pas avec des involtures, à la légère. Il frappe à votre porte. Vous lui ouvrez, il entre, et vous le recevez. On le reçoit comme on est. Il ne nous demande pas, parce qu'il peut frapper à la surprise. Combien de fois c'est arrivé à des frères et des sœurs qui n'étaient pas encore frères et sœurs et qu'ils sont devenus parce qu'il a frappé, ils ont ouvert. On le reçoit comme l'on est. Il ne nous demande pas d'être bien habillés, d'être, comme il est dit, hein, il vient pour les pécheurs. Hein. Mais une fois qu'on le connaît, il n'est plus possible d'être comme avant. Alors, j'ai témoigné de ça plusieurs fois, mais personnellement, après l'avoir rencontré, après l'avoir laissé entrer dans ma vie, je me suis éloigné un temps de lui. Alors lorsque je suis revenu, je ne vais pas revenir sur les circonstances, mais je peux vous avouer que il n'y avait pas de fierté en moi, pas d'arrogance. Hein. Après le culte, j'étais assis au fond là-bas. Il y avait une grosse tache là où je me tenais. On pouvait savoir où j'étais assis. Hein. Cette tache, elle était laissée par les larmes que j'avais versées. Et ça coulait tout seul. Hein. je vais vous dire, au fond de moi, j'avais honte de mon infidélité, contrairement à lui, qui est d'une fidélité, cette fidélité, je pense qu'elle est inexprimable. Il n'y a pas de mots pour le dire. Oui, j'avais honte parce que je n'avais pas accordé mes pas aux siens. Alors c'est vrai, on est bien tous ensemble. Et si tout se déroule agréablement, chaque dimanche, chaque fois qu'on se réunit, en fait, c'est parce que notre Seigneur est aux manettes. Alors je voudrais revenir un petit peu en arrière. Chaque dimanche, 9h15, 9h30, les portes s'ouvrent, un frère vient ouvrir, le groupe de louanges arrive, après c'est la technique qui arrive, où ils arrivent en même temps, hein. Celui d'intercession se constitue, le groupe d'intercession, c'est la pièce sur votre droite quand vous arrivez. Et puis il y a le groupe d'accueil dont je fais partie. Alors que font les musiciens ? Eh bien, ils déballent leurs instruments et puis ils les accordent. Ils accordent leurs instruments. Et puis après, ils se joignent les uns aux autres et ils s'accordent ensemble. La technique se joint après à eux, fait les réglages. Or, bien sûr, tout cela est remis dans les mains du Seigneur. Le groupe d'intercession dans la pièce sur la droite en entrant, avant de prier, alors dans le groupe d'intercession, c'est vrai qu'il y a de nombreuses sœurs, c'est quasiment que des sœurs qui sont là. De temps en temps, il n'y a pas d'autre activité à faire dans l'église, il y a David et Vincent, notre pasteur, qui se joignent à ce groupe. Mais avant de prier, avant d'intercéder, ce groupe s'accorde sur une direction de prière, il s'accorde. Et ils prient ensemble. Ils remettent les moments qui vont suivre à notre Seigneur. Alors à l'accueil, eh bien, Maëlle, qui se joint à nous de temps en temps, Jérémie et moi, qu'est-ce que l'on fait ? On prend un moment, on l'a fait encore ce matin, et on le fait à chaque fois, on s'accorde sur la ligne de prière que l'on va prendre. C'est vrai que c'est souvent remettre justement la louange, la personne qui va apporter le message entre les mains de Dieu, c'est remettre nos sœurs qui sont dans le groupe d'intercession, que vraiment le Seigneur intervienne. C'est aussi remettre les frères et sœurs qui sont sur la route, qui vont venir nous rejoindre, les remettre sous la protection du Seigneur. Voilà ce qui se passe trois quarts d'heure, une demi-heure avant que vous arriviez pour la plupart. Et je pense que tout se passe bien. Vous êtes accueillis, on ne voit pas les sourires. Et peut-être que dans nos yeux, vous le voyez. Et tout cela est possible parce qu'il y a un accord. On s'accorde. Ainsi, tout est dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ pour que Dieu le Père soit honoré et glorifié avec sincérité et crainte. Alors la crainte, c'est pas de la peur, mais c'est pour moi la prise de conscience sa grandeur et sa puissance de notre Seigneur. Et je le répète, si tout cela est possible, si tout se passe bien, c'est parce que les intervenants, quels qu'ils soient, se sont auparavant accordés. Alors on va aller dans 2 Chroniques, chapitre 5, les versets 13 et 14. Dans ce passage, il nous est dit « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour louer et célébrer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et tout et les autres instruments, et louèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa bienveillance dura toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » J'espère que lorsque vous venez, lorsque vous asseyez, lorsque les musiciens commencent à jouer, vous ressentez la présence de Dieu. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner quand même quelques définitions des mots que j'ai employés. Je suis revenu régulièrement sur le mot « accord ». Accord, ça signifie, c'est une convention, une entente entre des personnes, des États ou des communautés. C'est une définition du dictionnaire, bien sûr. Accord, c'est une approbation donnée à un demandeur. Un accord, c'est une union, une harmonie entre des personnes ou des choses. Alors, il y a des expressions, être en accord, c'est être en parfaite harmonie. Être d'accord, c'est en fait dire oui, c'est entendu, je suis d'accord, oui. Alors en musique, bien sûr, c'est l'émission simultanée de sons formant une harmonie. Le verbe accorder, c'est se mettre d'accord, se réconcilier. Accorder, c'est concéder une faveur, donner. Alors il y a un exemple, c'est un père accorde la main de sa fille. Il donne la main de sa fille. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Moi, je sais que je l'ai demandé avant de me marier. Je l'ai demandé à mon beau-père. J'avais peur qu'il ne me l'accorde pas parce qu'on était en désaccord. Mais il me l'a accordé. On a pu se marier. Civilement, j'espère qu'un jour, ma femme pourra remettre notre mariage devant Dieu. Accorder, c'est aussi reconnaître. Il y a un exemple qui est donné dans le dictionnaire. C'est par exemple, je vous accorde que ce sera difficile. Je suis d'accord. Je reconnais que ce sera difficile. Tout à l'heure, j'ai prononcé le mot harmonie. Alors, il y a beaucoup de définitions sur le mot harmonie qui ont un rapport avec la musique. Mais moi, j'ai choisi cette définition, concordance agréable entre les différentes parties d'un ensemble. C'est l'union, l'affinité, la symbiose entre des personnes ou des choses. L'harmonie, c'est une impression de beauté qui résulte du choix et de l'agencement de divers éléments d'un chef-d'œuvre. Alors j'espère que l'on est en harmonie et que l'on est un chef-d'œuvre pour Dieu. le mot harmonieux, puis après j'ai arrêté les définitions. Harmonieux qui est agréable à l'œil. Se dit d'un ensemble dont les parties sont agréablement combinées. Harmonieux qui est source de bien-être et de sérénité. Alors moi je vous dis, si nous voulons être vainqueurs, il faut que nous soyons en accord avec les directives de notre Seigneur et en harmonie les uns avec les autres. Alors je vais prendre l'exemple d'une équipe de foot. Chaque joueur, en fonction, je dirais, de ses dons, a une place dans l'équipe. S'il joue n'importe comment, il y a le gardien de but, il y a les défenseurs, il y a les attaquants, et ils doivent jouer en harmonie, en accord, même en accord sur une stratégie de jeu même. S'il n'y a pas cette harmonie dans l'équipe, si on met que des attaquants et pas de gardien de but, c'est sûr qu'ils vont perdre, à mon avis. Et on ne peut être vainqueur que si on est en harmonie, en accord les uns avec les autres. On va aller dans 1 Corinthiens 1, les versets 10, le verset 10, où il nous est dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord, dans la même pensée et dans la même opinion. » Et je vais lire une partie du verset 11 qui nous dit « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet qu'il y a des discordes parmi vous. » Or, c'est vrai, moi j'ai... Il y a des... Quel que soit le nombre de personnes, c'est difficile de s'entendre. Par mon métier, j'ai fait le syndicat d'immeubles. Je me souviens d'un immeuble où il y avait 10 propriétaires. C'était toujours la galère. Chaque fois qu'il y avait des réunions, il y en avait toujours un qui n'était pas d'accord. C'était jamais les mêmes, hein, c'est selon les cas. Et c'était la galère. Quand dans un immeuble, le syndicat, il y avait de nombreux propriétaires, il y avait toujours des pouvoirs. Il y avait un nombre restreint de personnes, on arrivait toujours à une décision rapide. Mais moins on était, il y avait toujours des problèmes. Alors moi j'ai retenu ces mots, tenez tous un même langage. Et accordez ce langage. Alors lorsque je vous dis, si aujourd'hui, nous n'accordissions pas nos instruments de musique. Nous continuerons à jouer faux et la mélodie ne sont pas agréables pour ceux qui l'entendent assier. Oh là là, ça pique l'oreille. Hein. Ça pique l'oreille. Je pense qu'il vaut mieux dire si aujourd'hui nous n'accordons pas nos instruments de musique, nous continuerons à jouer faux. Et la mélodie ne sera pas agréable pour ceux qui l'entendent. Je crois que c'est mieux comme ça. Alors Dieu entend. Dieu entend ce que l'on dit, même ce que l'on pense. Et je me disais, mais de ces deux phrases, laquelle va-t-il préférer? Je pense que c'est la deuxième. Alors c'est vrai que je veux réellement partager avec vous ce moment que l'on passe ensemble et vous dire, c'est dans le psaume 118, les versets 24 et 25, et ce passage nous dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Éternel accorde le salut. Éternel donne le succès. » Alors, accorde le salut, en hébreu, si je ne me trompe pas, Lionel, ça se dit Oshiana. Et la transformation en français, c'est Hosanna. Et le verset 22 de ce passage du psaume 118 nous dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. » Mes frères, mes sœurs, soyons de bons bâtisseurs. Ne quittons pas des yeux la pierre principale, celle de l'angle, c'est-à-dire Jésus-Christ. S'accorder, être en accord les uns avec les autres, et ainsi l'Éternel accorde le salut, donne le succès. Alors ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Écritures. Alors c'est vrai que lorsque on évoque une pierre d'angle, on pense à un mur, évidemment, on pense à de la maçonnerie. Alors je vais vous raconter une histoire vraie. C'est un contremaître sur un chantier qui m'a raconté ça. Alors je vais me déplacer. Sur ce chantier, il y a un mur de refend à construire. Un mur de refend, c'est un mur intermédiaire, mais porteur, sur lequel une partie, il y a les murs périphériques, et le mur de refend, c'est un mur intermédiaire sur lequel va reposer des poutres et après le plancher. Parce que des fois, il y a des portées qui sont trop longues, donc il faut un mur intermédiaire. Donc, ce contremaître trace la ligne de direction pour ce mur. Et pour aller vite, parce qu'ils sont pris par le temps, il y a deux maçons, deux tâcherons. Donc ce sont des maçons payés à la tâche. Plus ils vont vite à construire quelque chose, plus ils gagnent d'argent. Et ces deux tâcherons, ce qu'ils font, ils se mettent chacun d'un côté des murs périphériques pour construire plus vite, plus rapidement, le mur de refend. Alors je figure le mur de refend. Voilà. Ça, c'est les parpaings, les briques, les pierres, comme vous voulez. Il y a presque plus de distance, là. Ils ont presque terminé. Ils sont contents d'eux. Ils étaient tous à leur tâche. C'est des tâcherons. Donc, tous à leur tâche. Et puis, à un moment, donc ils se tournaient le dos. Ils n'avaient pas pris un accord entre eux. Ils ne s'étaient pas concertés, ils connaissent leur métier. Alors c'est bien comme ça de voir le mur, mais je vais vous le montrer vu d'en haut. Voilà. Ça c'est la ligne que le contremaître avait tracée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas concertés. Ils ont commencé chacun d'un côté de cette ligne. Donc, il y a une partie de ce mur. Ils ont voulu aller vite. Ils ne se sont pas concertés. Ils ne se sont pas mis d'accord. Il y en a un qui a construit son mur d'un côté du trait et l'autre de l'autre côté. Et quand ils se sont mis d'accord, quand ils se sont concertés, quand ils se sont retournés, je dirais, eh bien, ils se sont rendus compte que le mur ne pouvait pas se joindre. Donc, ils ont été obligés de détruire cette partie et de recommencer. Ils pensaient gagner du temps. Ils en ont perdu. Ils ne se sont pas concertés. Ils ne se sont pas mis d'accord. Ah. Bon, je vais recommencer alors, si vous n'avez pas vu. Bon, ça, c'est le mur. Là, il y a la ligne directrice faite par le contremaître. Un construit son mur de ce côté et l'autre de l'autre côté. Ils ne se concertent pas. Alors, c'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie. Ils ont voulu faire ça rapidement. Bénéfice net. Ils ont perdu du temps. Ils ont été obligés de détruire une partie et de recommencer de l'autre de manière à se joindre. Donc vraiment, il est important de s'accorder quand on fait quelque chose. Ah, par contre, là, je ne vois plus. Merci. Alors c'est un exemple, et c'est vrai qu'après, le contremaître m'expliquait qu'en fait, au lieu de faire un seul trait directeur, il en faisait deux. Comme ça, les maçons voyaient bien l'endroit où ils devaient poser leurs pierres, leurs parpaings ou leurs briques. Alors c'est vrai que je pense qu'il faut être dans l'alignement de la volonté de Dieu, dans l'alignement que donne Dieu, et ça nous donne du discernement. Et le discernement donne des bénédictions. Dans Néhémie, chapitre 9, les versets 19 et 20, alors je vais vous rappeler un peu le contexte. C'est un rappel sur l'égarement du peuple hébreu. Ils ont fondu le veau d'or. Ils ont refusé d'entrer en terre promise. Mais Dieu est compatissant. Mais Dieu est bienveillant. Verset 19. Il nous est dit, dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit d'éclairer le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche et tu leur as fourni de l'eau pour leur soif. Dieu est compatissant. Dieu n'aime pas le désaccord, la division. Il veut que nous soyons un troupeau rassemblé. Alors le peuple hébreu est aux portes de la terre promise. Des espions sont envoyés. À leur retour, il y a une division entre eux. Il y en a qui disent, ils ont vu des géants. Il y en a qui disent, non, non, on n'entre pas. Non, non. Et il y a une minorité qui, elle, dit, si, si, on y va. Alors, les géants, on peut les combattre. Dieu est avec nous, on peut y aller. Mais il y a cette division. Alors, ça aurait pu être, il y a une division de la pensée, mais ça aurait pu être une division réelle. Ils auraient pu se scinder en deux groupes. Moi, je pense que le groupe minoritaire, celui qui voulait se battre, eh bien, s'il était entré en terre promise, il aurait été vainqueur, même s'il était peu nombreux, parce que Dieu était avec eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont concertés. C'est vrai qu'ils ont pris une mauvaise décision. Ils ne sont pas entrés en terre promise. Pourtant, le mot, hein, terre promise, Dieu leur avait promis, donc Dieu accorde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur désaccord, leur mésentente, leur non-envie de suivre la ligne tracée par Dieu, Eh bien, ils ont erré pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert. Il y a eu une division dans leur analyse des choses, mais ils sont quand même restés unis, ensemble. Et ça fait que pendant 40 ans, ils ont tourné en rond dans le désert. Alors moi, je vous dis, ne soyons pas comme cela. Concertons-nous dans la présence du Seigneur et accordons-nous pour affronter les géants qui nous entourent, parce qu'il y en a plein. Alors, comment faire ? Eh bien, s'il y a division, non accord, si on s'est égaré, je pense qu'il y a un passage de la parole qui est important pour nous. C'est dans Matthieu 18, les versets 15 à 20, qui nous dit, donc Matthieu 18, les versets 15 à 20, qui nous disent, si ton frère a péché, et moi je dirais, s'il s'est égaré, va et reprends-le. Et on peut le traduire par convainc-le. Seul à seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et moi je comprends, tu l'as sauvé. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, alors pour moi, les deux ou trois témoins, on pourrait dire que ce sont des médiateurs. C'est des personnes qui vont calmer le jeu, s'en remettre à Dieu et redonner la bonne direction. Tracer les deux traits pour construire le mur. Donc s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour vous comme un païen, un péager. Pour moi, ça signifie qu'il est sans connaissance de Dieu, de la volonté de Dieu, qu'il a fermé ses oreilles, boucher ses oreilles, fermer ses yeux. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alors je vais avoir une prière. Et cette prière, c'est pourquoi dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, par ces mots, je lis le désaccord sur la terre, dans l'Église en général, afin qu'il soit lié dans le ciel. Et je délie l'accord sur la terre, dans l'Église, afin qu'il soit délié dans le ciel et se réalise pour la plus grande gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors c'est vrai que je prononce des paroles, mais on peut chacun avoir des difficultés. Dire c'est facile, il est là, il fait un sermon, il nous dit des choses. Si on se dit c'est trop dur, les géants sont trop grands, bah oui, si c'est des géants, déjà ils sont grands, hein, c'est normal. Je ne peux pas, j'en ai assez, je ne peux pas me joindre à vous, je suis dans une trop grande galère, j'ai des problèmes financiers, au travail, dans la famille, etc., etc., etc. Alors je vous rappelle que ceux qui voulaient combattre les géants à l'entrée dans la terre promise sont restés avec ceux qui ne voulaient pas les combattre. Ils sont restés avec eux pendant 40 ans. Ceux qui voulaient, en quelque sorte, ont préparé ceux qui ne voulaient pas, la génération suivante, parce qu'on sait que ceux qui ne voulaient pas, il a fallu qu'ils perdent la vie. Alors, je vais vous prendre un exemple, j'ai parlé de galère. Une galère, c'est un navire qui avance avec des rames. Et pour faire avancer ce navire, il y a plusieurs possibilités, plusieurs attitudes. Il y en a trois, en fait. Il y a une personne qui rame dans la galère, et là, ça n'avance pas. Pas possible. Il ne peut pas faire avancer un navire aussi important. La deuxième solution, tous les rameurs rament, sauf un. Et bien, ça ne marche pas non plus. Parce qu'au bout d'un moment, les rames de ceux qui rament viennent s'emmêler avec la rame de celui qui ne rame pas. Et là, le bateau ne peut pas avancer non plus. Il faut que tous rament en même temps pour que la galère avance, pour que le navire avance. Alors, je vais vous dire, pas facile de ramer tous ensemble, hein. Alors, il y avait un système pour ramer, pour donner du rythme, accorder la cadence des rameurs. Un homme jouait du tambour. Il donnait la cadence. Alors, moi, je prie pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit au maillotche. Et lui seul. Alors, les maillotches, c'est pas des baguettes, hein, c'est, je sais pas comment expliquer. C'est des maillets, en fait. Et la personne tapait sur les tambours avec ses maillets. Oui, donc, que notre Seigneur Jésus-Christ soit au maillotche et lui seul dans nos galères. Alors, lorsque tous les rameurs d'une galère s'accordent, rament en harmonie, en accord les uns avec les autres, le navire peut se déplacer rapidement et en ligne droite. Alors, pour obtenir une bénédiction, il faut se consacrer à l'Éternel. C'est un ordre qui nous est donné, hein. On le voit dans Exode 32, le verset 29, où Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun, même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Ne pas se consacrer à l'Éternel, ça a de lourdes conséquences. On le voit dans... Je vais vous donner un contexte, une situation. Moïse vient de recevoir les tables de la loi. Pendant ce temps, les Hébreux fondent le veau d'or. Dans le verset 26 d'Exode, Moïse se tient à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les fils de Lévi s'assemblent autour de lui. Alors la suite est terrible, hein, puisque l'épée est tirée, il y aura 3000 hommes qui vont tomber, ceux qui ne sont pas pour le Seigneur. Je pense qu'il faut le prendre comme une image, hein. Il ne faut pas que nous, à notre niveau, on tire l'épée et on tue les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, hein. Mais ces personnes, bah, elles sont perdues, en fait, hein, si elles ne sont pas d'accord. Je me suis posé une question. Avons-nous un veau d'or? Allons-nous nous consacrer à l'Éternel? Il se tient à la porte. Allons-nous aller vers lui? L'accord dans la prière pour rechercher la volonté de Dieu est notre force. Dans le livre des Actes, Jésus est ressuscité, il était enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Les apôtres sont au mont des Oliviers, ils s'en retournent à Jérusalem selon les directives qu'ils ont reçues. Acte 1, les versets 13 et 14. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et la supplication avec les femmes. Donc tous, tous. La prière est notre force. Alors je me suis dit, mais comment on pourrait illustrer la prière? Alors j'ai pris une image pour illustrer la prière. Je dirais que la prière est semblable à un tapis roulant. On s'y tient debout, assis, à genoux, allongé, si l'on veut. On ne bouge pas et pourtant on avance sur le tapis roulant. Le tapis roulant, quand on fait un trajet, je pense à la gare Montparnasse pour aller vers la gare du Nord, on en plein. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je pense qu'il existe toujours. On a déjà marché pas mal de temps et puis on arrive sur ce tapis qui, je crois qu'il fait 500 mètres, je crois. Et on pose ses valises et on se laisse emmener par ce tapis roulant. Alors le tapis roulant est un moment de repos dans notre progression statique. La prière, comme le tapis roulant, nous fait avancer, progresser, alors que nous ne sommes pas nous-mêmes en mouvement. La prière, c'est notre force. Accordons-nous, accordez-vous, il y aura des bénédictions que l'on ne peut même pas imaginer. Mes frères, mes sœurs, prenons réellement conscience de la puissance de la prière. Accordons-nous dans celle-ci pour que notre chemin soit éclairé. Alors, si vous avez un désaccord avec un frère ou une sœur, allez le voir sans tarder. Il en va de l'édification de l'Église du Seigneur. Ma prière est que nous nous accordions harmonieusement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je dirais que, compte tenu des circonstances, on va être éloignés les uns des autres. Il faut justement qu'on soit accordés, parce que ça va être un moment où on sera dispersé. On se verra moins ou pas du tout. Mais il faut qu'il y ait ce lien, cet accord entre nous, cette ligne de direction. Jésus. C'est vraiment important. Je vous demande d'y réfléchir et de remettre toutes vos pensées au Seigneur. Pour que quand on pourra rouvrir les portes, eh bien, on soit encore plus nombreux. Qu'on soit en accord. Je vous souhaite un bon dimanche.
Amen. Merci Marc pour ce message. Merci pour cette vision où chacun est de son côté. Ah, la fameuse aussi vision où chacun tire la couverture à soi, de chercher sa volonté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ta présence. Je crois que le Seigneur, avant justement cette période où effectivement physiquement nous ne nous verrons plus, entre comment remplis-tu ton temple et cette vision d'être en accord en Christ, d'être en accord avec sa volonté. C'est nous le temple de Dieu, hein, c'est pas ce bâtiment. C'est vous les pierres vivantes. de rester ferme en Christ. Des fois, c'est facile à dire et à faire, c'est pas pareil. Non, je critiquerai pas personne. Non, on a besoin de Christ. Et aujourd'hui, c'est à Toussaint, donc c'est une fête qui a été inventée. Hein. C'est nous les saints. C'est pas ceux qui sont dans les cimetières. Hein. C'est nous les saints. En Christ. Eh bien, Seigneur, je vais te louer et te remercier pour ce message. Je te remercie pour la parole qui nous a été apportée. Oui, d'être en accord. En accord avec ta parole. Mais combien ils sont pas en désaccord vu qu'ils n'ouvrent pas. Seigneur. J'ai bien aimé aussi ce message de ce frère à Mulhouse qui disait d'ouvrir la bouche de Jésus, de Dieu, c'est d'ouvrir la parole. Parce qu'il est la parole. D'apprendre à ouvrir ta parole. Chercher. Ne pas chercher n'importe où, n'importe quoi, parce que malheureusement, il y a des très bonnes choses et des mauvaises choses sur Internet. Mais de chercher ta présence avec nos mots, avec notre cœur. Merci pour les frères et sœurs, Seigneur, que tu vas accompagner dans ce temps. Merci de nous donner des mécanismes, des stratagèmes pour chercher ta présence d'une manière ou d'une autre. Ne nous permets pas encore de perdre des frères et sœurs. Ne permets pas, Christ, mon Père, que des pierres tombent. Je te les mets tous sous ta protection toute particulière. Ô Saint-Esprit, là ce n'est pas une semaine, c'est un mois. Je te prie dans le nom puissant de Jésus de garder notre gouvernement. Je veux les bénir et fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, de nous permettre de rouvrir rapidement les lieux qui profèrent ton nom. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi que tu prennes soin chacun de tes enfants, chacun de tes précieux, chacun, comme dit ta parole, qui est la prunelle de tes yeux, chacun que tu as tant aimé que tu as envoyé Jésus, chacun que tu prennes soin d'eux. Je sais que tu prends soin d'eux. Mais que leur cœur ne s'éloigne pas. Donne-leur ce courage dans leur temps personnel de te chercher. Remplis leur cœur, remplis leur temple de ta présence. Garde-les de rentrer dans des discussions à médire le gouvernement, les situations. Tu nous as appelés à bénir, tu nous as appelés à aimer. Tu nous as appelés à briller dans ce monde de ténèbres. Père, je te les remets tous sous ta grâce toute particulière. Et permets-nous, comme l'a dit ce message, de nous mettre en accord, Seigneur, pour conserver ce lien, pour conserver nos frères et sœurs, pour conserver ta présence. Et surtout, ta volonté. Merci Seigneur parce que tu parles en ta parole. Tu parles de plusieurs façons, de plusieurs serviteurs. Mardi, c'était sur la langue, le pouvoir de la langue. Rempli. Je sais que tu es fidèle et juste, contrairement à moi. Je sais que tu les aimes et que tu veux prendre soin d'eux. Et je veux les bénir. Garde leur cœur en ta présence. Ô Père, je les bénis au nom de Jésus. Oui Seigneur, ils ne sont pas abandonnés, tu es avec nous. Et je me réjouis dès maintenant du jour où nous pourrons nous retrouver pour glorifier ton nom ensemble, de tout ce que tu auras encore accompli. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Mes frères et sœurs, même profitez avec votre époux, votre épouse, ou même si vous êtes seul, rompez le pain. Rendez gloire à Dieu. Buvez la coupe. Rendez gloire à Dieu. De rappeler qu'il est mort pour nous, mais qu'il est ressuscité, comme nous l'avons chanté. que tu t'es sacrifié pour nous, pour que nous puissions avoir cet accès auprès du Père. Oh oui, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Et que la grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Amen.